VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par la guerre en Syrie. Les États-Unis et la Russie sont au bord de la rupture sur le conflit syrien. Washington menace d'arrêter sa coopération diplomatique et avec Moscou. Et Moscou réplique n'avoir aucune intention d'interrompre la guerre malgré la catastrophe humanitaire à Alep. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le président Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont condamné jeudi avec force, je cite, les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep, une zone où habitent des centaines de milliers de civils, dont la moitié sont des enfants. Lors d'une conversation téléphonique rapportée par la Maison-Blanche, les deux dirigeants alliés ont convenu que Moscou et Damas portaient une responsabilité particulière pour mettre fin au combat en Syrie et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire de l'ONU aux zones assiégées et difficiles d'accès dans le pays. Auparavant, le secrétaire d'État John Kerry avait une nouvelle fois menacé la Russie de geler leur dialogue diplomatique si le carnage d'Alep ne prenait pas fin. À Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a immédiatement répliqué, je cite, que le meilleur cadeau aux terroristes sera le refus de Washington de coopérer avec la Russie pour un règlement du conflit en Syrie.
Israël, le cercueil de l'ancien président israélien, prix Nobel de la paix Shimon Peres, a été mis en terre ce vendredi au cimetière national du mont Herzl à Jérusalem. Des dizaines de dirigeants du monde entier, parmi lesquels le président américain Barack Obama et ses homologues français, allemands et palestiniens, ont assisté à l'inhumation de M. Peres à quelques mètres d'un autre Nobel de la paix, le défunt premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Cette affluence témoigne de l'immense respect que s'était attiré M. Peres en 70 ans de carrière à tous les grands postes, notamment Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et président d'Israël. Afrique maintenant, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a installé finalement dans leurs fonctions jeudi les membres de la commission constitutionnelle nommée il y a 3 mois. Les résultats de leurs travaux qui vont permettre de passer à la 5e République sont attendus dans 60 jours. Les enjeux de la nouvelle charte fondamentale avec Alidou Ouédraogo, le président de la commission constitutionnelle.
Il nous a donné 2 mois pour achever notre travail. C'est pour installer la loi fondamentale, le socle. Notre priorité, c'est de nous asseoir, de nous installer et de commencer le travail tout de suite. On va dessiner les grandes lignes. C'est d'obtenir un texte conforme à l'aspiration de notre peuple. Et en fait, nous avons les matériaux aussi légués par nos prédécesseurs et les peuples du monde. Et vous avez vu que c'est toute la quintessence même des panoplies de notre peuple qui est réunie là. Et nous pensons qu'on va sortir quelque chose de potable.
Alidou Ouédraogo, président de la commission constitutionnelle au Burkina Faso. Au Ghana, le président ghanéen John Dramani Mahama, accusé d'avoir reçu une voiture en contrepartie d'un contrat lucratif, maintenant exonéré de tout soupçon. Il a reçu la nouvelle hier, jeudi, le jour même où il a présenté sa candidature officielle pour l'élection présidentielle de décembre. John Lyndon.
La Commission des droits de l'homme et de la justice administrative a rapporté que les suspicions de conflit d'intérêts contre M. Mahama n'étaient pas prouvées. Une enquête plus poussée n'est donc pas justifiée. Le gouvernement n'a jamais nié avoir reçu un 4x4 de la part d'une entreprise de construction du Burkina Faso qui avait gagné l'appel d'offres pour reconstruire le mur d'enceinte de l'ambassade du pays à Ouagadougou. Mais il nie que ce cadeau ait été un moyen de sécuriser un autre contrat pour la construction d'une route dans la région ghanéenne de la Volta et affirme que le véhicule a rejoint le parc automobile du gouvernement. Le scandale, révélé par un journaliste d'investigation anonyme, avait déclenché une grande vague d'indignation dans le pays. M. Mahama, qui représente le parti du Congrès national démocratique, est candidat à sa propre succession et a soumis sa candidature hier à la commission électorale. L'élection présidentielle aura lieu le 7 décembre prochain.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Gabon, l'opposant Jinping demande à la communauté internationale de prendre des sanctions ciblées contre les responsables de ce qu'il appelle un coup d'État militaro-électoral. Le chef de file de l'opposition gabonaise a réaffirmé qu'il ne reconnaîtrait pas le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, officiellement réélu pour un second septennat, Eric Manirakiza.
Jinping, hier, a répété qu'il est le président élu. Il a appelé la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre ceux qui ont perpétré un coup d'État militaro-électoral, notamment à travers le gel de leurs avoirs à l'étranger et des interdictions de voyager. Il a appelé à observer le 6 octobre une journée nationale de recueillement pour nos morts, tués par ce pouvoir durant les violences qui avaient suivi l'annonce des résultats provisoires en faveur du président sortant le 31 août. Il a répondu clairement qu'il n'ira à aucun dialogue sous l'égide d'un imposteur en référence à la main tendue d'Ali Bongo. Le nouveau Premier ministre Emmanuel Issoze Ngonde a annoncé hier la formation de son gouvernement d'ouverture pour dimanche. Il a été nommé la veille au lendemain de la prestation de serment du président Ali Bongo Ondimba, 57 ans, pour un second mandat de 7 ans.
Congo-Brazzaville, au moins 4 militaires ont été tués depuis le début de la semaine dans le Pôle, région du sud du pays, lors d'accrochages avec les ex-combattants ninja de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi. C'est ce que révèlent des sources policières et militaires, Nani Talani.
Deux militaires ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'ils convoyaient une ambulance transportant des malades partis de Kinkala, le chef-lieu du Pôle, et évacués sur Brazzaville, selon le capitaine Patrick Okomo, un des responsables des opérations de l'armée dans la région du Pôle. Deux autres militaires ont perdu leur vie lundi à Kimbedi, dans la même région, après l'attaque par les ex-combattants ninja d'une base que ces militaires gardaient, a ajouté M. Okomo, sans donner de chiffres du côté des assaillants. Pour le colonel Jules Mokalachumu, porte-parole de la police, le Pôle est en train de vivre une situation dramatique et les populations subissent des atrocités à huis clos. Toutes les tentatives pour joindre le camp du pasteur Ntoumi sont demeurées vaines. Les affrontements des derniers jours entre forces loyalistes et ex-combattants ninja ont provoqué un exode massif des populations du Pôle, notamment sur l'axe Brazzaville-Kinkala, où plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants, a rapporté un journaliste de l'AFP. Le ministère de l'Action humanitaire ignore pour le moment le nombre de personnes déplacées.
RDC, les États-Unis ont ordonné aux familles du personnel diplomatique américain en poste en République démocratique du Congo de quitter le pays en raison d'une recrudescence des violences. C'est ce qu'a annoncé le département d'État américain. Le département du Trésor américain avait déjà décidé mercredi de geler d'éventuels avoirs de deux généraux de l'armée et de la police de la RDC pour leur rôle dans la répression des libertés et droits politiques du peuple congolais et pour les entraves au processus démocratique dans le pays. Conflit en Somalie, la région autoproclamée semi-autonome du Kalmoudoug en Somalie accuse la région rivale du Puntland d'avoir dupé les forces américaines pour qu'elles lancent une frappe aérienne dans laquelle 13 soldats du Kalmoudoug ont été tués et 7 blessés. Les États-Unis confirment qu'une frappe américaine a eu lieu mercredi matin près de la ville de Galkayo, située à 575 km au nord de la capitale somalienne Mogadiscio et à cheval sur la frontière entre le Kalmoudoug et le Puntland. Deux régions autoproclamées, semi-autonomes et rivales. Rebond des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux après la décision prise mercredi soir à Alger par les pays de l'OPEP de réduire de 500 000 barils par jour leur production, qui est actuellement de 33 millions de barils par jour. Reste à savoir combien de temps durera l'embellie. Au micro de Timothée Donamay, Michael Kevin, professeur d'économie à l'Université de Santa Clara en Californie.
Vous vous rappelez qu'il y a deux ans, le prix était à peu près 100 dollars par baril. Et de nos jours, c'était réduit à 45 dollars par baril. Donc, avec l'annonce de la réduction, le prix a monté. Et je pense que l'Arabie Saoudite veut stabiliser le prix du pétrole à un prix de 47-50 dollars par baril.
Alors, c'est à la réunion de Vienne que sera décidée concrètement la répartition de cette réduction de la production. Comment voyez-vous cette rencontre?
Voilà, le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, ils veulent que l'Iran coupe sa production ou n'augmente pas la production. Et l'Iran, bien sûr, continue toujours avec un déficit de production. Et eux, ils voulaient remonter à leur production avant les sanctions américaines. Mais l'Arabie Saoudite veut qu'ils continuent avec une production réduite. Donc, les analystes vont suivre de près si l'Arabie Saoudite peut vraiment avoir un compromis avec l'Iran pour que tous les deux réduisent la production.
Michael Kevin, professeur d'économie à l'Université de Santa Clara en Californie. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.